Bonsoir, les amis du peuple syrien appellent à l'arrêt immédiat des violences. Les 60 pays réunis à Tunis ont plaidé aujourd'hui pour un cessez-le-feu. En attendant, la Croix-Rouge évacue des blessés de Homs. Les journalistes bloqués là-bas pourraient faire partie du convoi. La Réunion encore sous tension. De nouveaux affrontements opposent cette nuit de jeunes émeutiers à la police. Pourtant, le préfet a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures, dont une baisse du prix des carburants. Nous ferons le point sur la situation avec le rédacteur en chef de Réunion Première. Les chiffres du chômage ne sont pas bons encore une fois. C'est 13 400 demandeurs d'emploi de plus en janvier. On verra avec Marie Viennot que cette nouvelle hausse alimente déjà la polémique politique. Le bal des prétendants aujourd'hui dans les usines en difficulté. Nicolas Sarkozy annonce un accord avec Shell pour redémarrer la raffinerie de Petroplus. François Hollande est solidaire des métallurgistes de Florange. Une lueur d'espoir pour les journalistes blessés en Syrie. Le comité international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge syrien ont obtenu un cessez-le-feu temporaire à Homs pour pouvoir évacuer tous ceux qui ont besoin de soins, ainsi que des femmes et des enfants. 11 ambulances sont à pied d'œuvre. La reporter du Figaro, Edith Bouvier, et son collègue britannique pourraient donc profiter de ce convoi. À Beyrouth, la correspondance de Valérie Crova.
Les diplomates qui étaient à pied d'œuvre depuis deux jours et les responsables du CICR ont réussi à convaincre les rebelles qui contrôlent Bab Hamer, mais surtout les autorités syriennes, de faire taire leurs armes pour mener à bien cette évacuation. La Croix-Rouge s'est associée au Croissant-Rouge syrien pour se rendre dans le quartier de Bab Hamer où se trouvent les deux journalistes blessés, dont Edith Bouvier qui travaillait pour le Figaro et qui souffre de plusieurs fractures à la jambe. Dans une vidéo mise en ligne hier, la jeune femme avait demandé à être transportée au plus vite pour pouvoir être opérée. Elle devrait être rapatriée dans un premier temps en ambulance sur Damas, puis en avion en France, mais pour le moment, personne ne s'aventure à donner plus de détails. De sources diplomatiques, on se borne à dire qu'un dénouement positif est proche. Quant au corps du jeune photographe français Rémi Hochelik et de l'américaine Marie Colvin du Sunday Times, ils devraient être eux aussi rapatriés, mais là aussi, les informations restent pour l'instant confidentielles.
La pression internationale sur Damas est donc encore montée d'un cran. Aujourd'hui, les 60 pays réunis à Tunis s'appellent à renforcer les sanctions et à l'arrêt des violences en Syrie. Bruno Caden.
Les divisions syriennes ont fait irruption dans cette conférence à Tunis. Tout d'abord, des opposants avec les drapeaux de la contestation, vert, blanc, noir, ont manifesté pacifiquement devant l'hôtel où se tenait la conférence. Mais ensuite, des pro-Assad, la plupart du temps tunisiens, ont tenté d'envahir l'établissement. Ils ont été repoussés à coups de matraque par la police tunisienne. Une fois le calme revenu, ce sont les pays arabes qui ont été les premiers à prendre la parole. Le chef de la diplomatie tunisienne a affirmé que la communauté internationale allait transmettre un message fort et clair à Bachar el-Assad pour arrêter les crimes en Syrie. De son côté, le chef de la diplomatie du Qatar, pays en pointe dans le soutien au printemps arabe, a proposé la création d'une force arabe pour imposer la paix en Syrie et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Ces couloirs humanitaires demandent récurrentes de la diplomatie française. Alain Juppé, de son côté, a demandé à l'opposition syrienne de s'unir derrière le Conseil national syrien afin de limiter le nombre d'interlocuteurs.
Le programme nucléaire iranien continue d'inquiéter l'AIEA. Dans son rapport, l'Agence internationale de l'énergie atomique exprime ses craintes sur un possible volet militaire du programme nucléaire de l'Iran. Le processus d'enrichissement de l'uranium a fortement augmenté et pour les États-Unis, la République islamique viole les résolutions du Conseil de sécurité. La table ronde sur la vie chère organisée à La Réunion n'a pas suffi à calmer les esprits. Le préfet Michel Lalande a annoncé pourtant une série de mesures, dont une baisse du prix des carburants. Mais ça ne répond qu'à une partie de la population. Les émeutiers, ces groupes de jeunes qui affrontent la police depuis maintenant 4 jours, n'ont pas grand-chose à perdre. Le taux de chômage dans ces quartiers est énorme. Pour parler de cette situation explosive, nous sommes avec le rédacteur en chef de Réunion Première, David Ponchelet. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors peut-être une première question. Qu'est-ce qu'a annoncé concrètement le préfet ce soir ?
Alors, le préfet, à l'issue de cette réunion qui a duré 5 heures, il a annoncé 3 mesures. D'abord, concernant les carburants, il a annoncé une baisse de 8 centimes, à la fois sur le sans-plomb et sur le gazoil, 8 centimes par litre. Concrètement, ça veut dire que le gazoil qui était à 1,29€ va passer à 1,21€, et le sans-plomb qui était à 1,66€ va passer à 1,58€. Cette baisse sera effective à partir du 1er mars, c'est-à-dire dans quelques jours. Toujours concernant le carburant, Il a annoncé le lancement d'une étude pour la création d'un dispositif de stockage du carburant sur l'île, et cela pour renforcer la concurrence et tenter de faire baisser les prix. Troisième mesure, 40 produits de première nécessité vont faire l'objet d'une baisse significative ou d'un gel de leur prix. Baisse significative, c'est le terme qu'a employé le préfet, mais il n'a donné aucune précision. La liste des produits sera publiée mardi soir. Il y aurait le riz, les couches, l'huile, la viande locale, etc., etc.
Est-ce que ces premières réponses apportées lors de cette table ronde sont satisfaisantes pour les Réunionnais ?
Écoutez, il est sûr que la vie chère, le problème de la vie chère, la cherté de la vie, comme on dit ici, c'est une préoccupation évidente pour toute la population réunionnaise. Et cela pour une raison, un Réunionnais sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est vrai qu'ici, les prix sont chers, sont très chers. Un exemple, des yaourts qu'on trouve à 1,50€ dans un magasin en métropole, eh bien ici, ces mêmes yaourts de la même marque valent 3€, 3,50€. Donc oui, la cherté de la vie est un problème. Maintenant, est-ce que ces mesures vont satisfaire les Réunionnais? C'est autre chose. Ce genre de mesure a déjà existé, c'était en 2009, au moment, vous savez, des manifestations du LKP en Guadeloupe, une manifestation contre la vie chère. Ici, il y a eu un mouvement similaire, ça s'appelait le COSPAR, et une liste de prix de certains produits a été établie. Ces produits ont baissé pendant un certain temps, et vous voyez, bien, 3 ans après, on en est revenu au même niveau.
Oui, parce que là, c'est du coup par coup, une réponse en urgence. Mais finalement, est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées à long terme ?
Ça fait 21 ans que la Réunion connaît ces problèmes récurrents. Je dis 21 ans parce qu'en 1991, c'était les premières émeutes au Chaudron, dans ce quartier populaire de Saint-Denis. À l'époque, les magasins avaient été attaqués, comme aujourd'hui d'ailleurs. Le problème fondamental ici à la Réunion, c'est tout simplement le chômage. 30% de la population réunionnaise est au chômage. Chez les jeunes, ce taux atteint 60%, c'est-à-dire que 6 jeunes réunionnais sur 10 n'ont pas d'emploi. Et dans les quartiers populaires qui sont la cible des émeutiers en ce moment, eh bien, ces taux atteignent 80, voire 90%.
Au moment où on parle, il y a encore des affrontements ce soir, cette nuit à La Réunion. La baisse du prix de l'essence ou des produits de première nécessité, ça ne répond pas forcément aux attentes des émeutiers, ces groupes de jeunes dont on parlait tout à l'heure.
Exactement, parce qu'il y a en fait 2 mouvements en un. Si vous voulez, il y a le problème de la vie chère qui préoccupe beaucoup de Réunionnais. Mais il y a aussi ces jeunes casseurs qui, maintenant pour la 4e nuit, se livrent à des exactions dans les rues réunionnaises. Ce sont des jeunes qui ont souvent 12, 13, 14 ans. On a même interpellé l'autre jour un jeune de 9 ans. Alors évidemment, ces jeunes-là, leur problème, ce n'est pas la vie chère. Ils expriment certainement une sorte de désespérance sociale et ils veulent s'affronter aux forces de l'ordre. Donc ils forment de petits groupes très mobiles, ils caillassent les forces de l'ordre, les gendarmes mobiles, qui répliquent par des tirs de grenades lacrymogènes. Et voilà, ça dure comme ça toutes les nuits depuis maintenant 4 jours à La Réunion.
Et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter ?
Ça, c'est impossible à dire. Je ne me livrerai à aucun pronostic. On ne sait pas. Ce qui se dit ici, c'est que, évidemment, à la faveur du week-end, ça ne va pas s'arrêter. Maintenant, est-ce que les mesures annoncées par le préfet sont de nature à calmer les choses ? C'est, ce soir, impossible à dire.
Et les Réunionnais sont inquiets, en tout cas.
Oui, alors, il faut relativiser, quand même. Je sais que les infos qu'on a en France métropolitaine sont assez alarmantes. On parle de la moitié des communes réunionnaises à feu et à sang, etc. Non, la moitié des communes réunionnaises ne sont pas à feu et à sang. La réalité, c'est que dans la journée, les enfants vont à l'école, les commerces sont ouverts, personne n'est barricadé chez soi. La vie continue normalement ici à La Réunion. Alors c'est vrai que le soir venu, dans certains quartiers, il y a ces incidents, il y a ces émeutes, hein, puisque c'est le terme employé par la préfecture, il y a des émeutes, mais paradoxalement, la vie quotidienne continue normalement ici à La Réunion.
David Ponchelet, merci d'avoir été sur France Culture. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Réunion Première. Certains députés grecs sont dans le collimateur. Alors que le pays est en pleine crise financière, le ministre de l'Économie a décidé de livrer au Parlement les noms des élus qui y ont sorti d'importantes sommes d'argent du pays. Des députés qui devraient bientôt être entendus par la commission parlementaire de contrôle fiscal. À Athènes, Angélique Kourounis.
La Grèce soumise permet de remplir rapidement. Les caisses de l'État livrent une bataille sans merci contre les fraudeurs fiscaux, y compris grande première lorsque ceux-ci proviennent de la classe politique. Aussi, le ministre grec des Finances a annoncé qu'il allait fournir à la commission parlementaire de contrôle fiscal le nom des députés ayant sorti de Grèce des sommes supérieures à 100 000 euros, alors que l'opinion publique et les médias, eux, se déchaînent depuis plusieurs jours pour découvrir l'identité mystérieuse d'un parlementaire accusé selon les affirmations du président de l'autorité indépendante pour la lutte contre le blanchiment d'argent d'avoir sorti de Grèce en mai dernier 1 million d'euros, alors même que le gouvernement exhorte les Grecs à ne pas vider leurs comptes bancaires. Selon le ministre des Finances, 65 milliards d'euros ont été retirés des banques depuis 2009, dont 16 milliards ont été déposés à l'étranger, essentiellement à Londres et en Suisse.
La Serbie fait un pas important vers son intégration dans l'Union européenne. Elle a conclu aujourd'hui un accord avec le Kosovo sur deux dossiers très sensibles. Les négociateurs sont notamment tombés d'accord pour laisser Pristina prendre part aux réunions sur les Balkans. Une avancée qui pourrait permettre à la Serbie d'obtenir le statut de candidat à l'entrée dans l'Union. C'est signé. Nicolas Sarkozy a voulu annoncer la bonne nouvelle en personne aux 550 salariés de Petroplus. La raffinerie de Petit-Couronne près de Rouen reprendra son activité courant mai. Un accord a été trouvé avec Shell. De son côté, l'État a débloqué 20 millions d'euros. Le reportage de Jérôme Jadot.
Dans les valises du président, une confirmation de ce que les syndicats savent depuis le début de la semaine. 6 mois de travail garantis grâce à un accord avec Shell.
Les travaux de remise en état de la centrale peuvent commencer.
Une centrale qui est en fait une raffinerie. Au milieu des ouvriers, Nicolas Sarkozy met ensuite en avant un engagement personnel.
Je me suis battu là pour le contrat avec Shell. Au début, c'était pas sûr, je vous le dis franchement. Et là, mais si j'étais pas venu aujourd'hui, vous croyez qu'il aurait été signé le contrat hier dans la nuit ? Il n'y a pas un lien ?
Un président qui mouille la chemise et un candidat qui raille son rival François Hollande en visite à la scierie de Florange et qui dit refuser de faire des promesses qu'il ne pourrait tenir.
François Hollande a raison, quand il promet de ne rien dire, il ne dit rien. C'est vrai, on est maintenant très habitué, on va finir par se demander s'il pense à quelque chose à force de ne rien dire. Nous on sait qu'il fera rien, mais ce qu'attendent les gens c'est qu'on fasse quelque chose.
Les salariés présents attendent surtout un repreneur durable et disent rester sur leur faim, mais Nicolas Sarkozy le promet.
Je lâcherai pas l'affaire, ok ?
Car la raffinerie de Petit-Couronne en redressement judiciaire est à l'arrêt depuis janvier. Il reste donc maintenant à trouver un repreneur définitif. Il faut croire que les usines en difficulté séduisent les candidats à la présidentielle. François Hollande est à Florange. Le candidat PS est venu soutenir les salariés d'ArcelorMittal. Les deux fourneaux lorrains sont à l'arrêt. François Hollande promet une loi qui contraindra un groupe qui ne veut plus d'une de ses usines de la céder à un repreneur. Le chômage continue d'augmenter en France. C'est plus 0,5% en janvier. Ils sont 13 400 demandeurs d'emploi de plus qu'en décembre dans la catégorie de ceux qui cherchent un emploi à plein temps. La situation ne devrait pas s'améliorer cette année et les chiffres du chômage alimentent déjà la polémique politique. Marie Viennot.
Depuis quelques semaines, l'opposition répète qu'il y a 1000 chômeurs de plus par jour pour le mois de janvier. C'est vrai, mais à deux conditions, ne pas compter les week-ends et prendre tous les chômeurs, c'est-à-dire ceux qui sont sans emploi, mais aussi ceux qui sont à temps partiel subi et ceux qui ne cherchent pas un temps plein. Avec cette définition du chômage, ils sont en ce moment 4 300 000 chômeurs dans notre pays, 1 million de plus depuis le début du quinquennat. Un chiffre que conteste le ministère du Travail, qui n'en compte lui que 400 000 de plus en 5 ans, car il exclut les temps partiels subis. Ce qui est sûr, c'est que ces 4 300 000 chômeurs ne travaillent pas autant qu'ils le voudraient, et c'est la raison pour laquelle ils sont inscrits à Pôle emploi. En revanche, tous ceux qui ont déjà laissé tomber leurs recherches ne font plus partie des statistiques. En janvier, on note que ces abandons comptent pour la moitié des sorties. Autrement dit, la moitié de ceux qui ne sont plus au chômage en janvier n'ont pas retrouver du travail, ils ont baissé les bras. 20% seulement ont réellement trouvé un emploi. Autre donnée inquiétante, les chômeurs de plus de 3 ans sont toujours plus nombreux en janvier. La durée moyenne du chômage s'allonge, 250 jours, l'enracinement du chômage se confirme.
Marie Viennot sur cette nouvelle hausse du chômage. Le parquet de Marseille ouvre une enquête préliminaire sur les relations entre le patron du renseignement intérieur et Jean-Noël Guérini. L'enquête porte sur des faits de trafic d'influence et de recel. Le juge du chêne qui travaille sur l'affaire des marchés publics présumés truqués des Bouches-du-Rhône se demande si Bernard Scorsini Salvini n'a pas informé le président socialiste du Conseil général sur l'avancement des investigations. Et selon des témoins, Jean-Noël Guérini aurait favorisé l'embauche et la progression salariale de l'un des enfants de Bernard Squarcini. La cérémonie des Césars bat son plein au Théâtre du Châtelet à Paris. Parmi les premiers à être récompensés, Michel Blanc, il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans L'exercice de l'État. Le temps pour demain, un samedi souvent gris mais plutôt doux. L'après-midi, les températures oscilleront de 8 à 21 degrés du nord au sud.